Chapitre 28. La tension monte aussitôt lorsque les gardiens dans la salle de contrôle sont informés que le détenu de Hall a quitté le sas du carrefour et se trouve dans le couloir souterrain qui mène au bâtiment D. À travers le verre blindé, il voit Jonah Lina, une fois n'est pas coutume, s'asseoir à la table de Rainer Kronlid, le leader de la Brødrenes Kapett, pour prendre son petit déjeuner. Les deux se parlent un instant, puis Jonah se lève, prend son gobelet de café et sa tartine et va s'installer à la table suivante. « Qu'est-ce qu'il fabrique ?» demande un des gardiens. « Il y a peut-être des informations sur le nouveau ?»« Ou alors ça a un rapport avec sa perme ?»« Il a appris hier qu'elle a été accordée, fait un troisième. C'est sa première, je crois. » Jonah jette un regard sur les trois gardiens qui l'observent derrière la vitre avant de se tourner vers Sumo pour lui poser la même question qu'à Rainer Kronlid. Qu'est-ce que je peux faire pour toi demain? Sumo est ici depuis 8 ans pour un double meurtre, bien conscient que le motif était un malentendu. Son visage est défait, il a toujours l'air triste, comme s'il venait de pleurer et qu'il s'efforçait de se maîtriser et de contrôler sa voix. Tu peux acheter une rose, la plus belle que tu trouves. Tu la donneras à Outi, et tu lui diras qu'elle est ma rose et dis-lui pardon de ma part, pardon d'avoir détruit sa vie. Tu ne veux pas qu'elle vienne te voir ? Demande Jonah en le fixant droit dans les yeux. Sumo se contente de secouer la tête, puis il se tourne vers la fenêtre, regarde la clôture grise surmontée de rouleaux de barbelés, et au-delà la monotonie du mur jaune sale. Jonah s'adresse au suivant à la table, Luka Bogdani, un petit homme dont les échecs dans la vie se sont figés en une expression arrogante. Et toi ? Luka se penche en avant et chuchote. Je voudrais que tu vérifies si mon frangin a commencé à dépenser mon fric. Je lui demande quoi? Non, putain, pas de question. Tu dois toucher l'argent, le compter. Il doit y avoir exactement 600 000. Je ne peux pas faire ça, tu le sais. J'ai envie de sortir d'ici et ça, c'est de l'argent qui provient d'un hold-up et si je... Putain, flic de mes deux, crache Luka. Et il renverse son café. Jonah continue de se déplacer entre les tables de la salle à manger. Il demande à chacun ce qu'il peut faire pour lui pendant sa permission. Il mémorise les messages à transmettre et les missions à accomplir en attendant l'arrivée de Salim Rajan. Jonah avait expliqué au Premier ministre qu'il avait besoin d'une permission de 36 heures à partir du lundi pour être en mesure d'infiltrer l'organisation de Rajan. Si vous sortez lundi, vous n'aurez pas beaucoup de temps pour l'approcher ici à Kumla, l'avait mis en garde le Premier ministre. Jonah n'avait pas pris la peine de lui expliquer que ceci n'était pas un inconvénient, mais une condition sine qua non. Avant de quitter la pièce, Jonah avait demandé quelles étaient ses marges de manœuvre en cas de situations extrêmes. Les lèvres minces du Premier ministre avaient tressailli quand il avait répondu « Si vous arrêtez les terroristes, elles sont quasi illimitées. » Rainer Kronlid se lève de table, s'essuie la bouche d'un geste stressé, et regarde vers le couloir et le sas. Il se tient immobile, la nuque raide, avant de s'humecter les lèvres et de se rasseoir. Tout le monde autour de sa table se penche pour l'écouter quand il parle. À travers le verre blindé, Jonah voit trois silhouettes grises et tremblotantes s'approcher dans le couloir. La serrure bourdonne et deux surveillants livrent le nouveau détenu, Salim Rajan. Le gardien-chef hoche la tête et signe le papier qu'on lui présente. Le visage de Salim Rajan est rond et vif. Ses cheveux fins sont coiffés en arrière sur son crâne et sa moustache est grisonnante. Il porte ses affaires dans le sac de l'administration pénitentiaire. Il ne croise le regard de personne. Un gardien l'accompagne dans sa cellule, puis le conduit à nouveau dans la salle à manger. Salim s'assied à la place libre à côté de Magnus Deva, avec un bol de céréales et un mug de café. Jonah se lève et va s'asseoir en face de lui. S'adressant à Magnus, il demande ce qu'il peut faire pour lui pendant sa permission. « Va voir ma sœur et coupe-lui le nez, » répond Magnus. « Elle t'envoie de l'argent tous les mois, » fait remarquer Jonah. « N'oublie pas de filmer, » sourit-il. Salim écoute, les yeux baissés pendant qu'il mange son muesli avec du lait caillé. Rainer et deux de ses gardes du corps vont se placer devant la vitre de la salle de contrôle et discutent pour faire écran pendant les quelques secondes nécessaires. Les deux autres hommes du gang traversent la salle à manger. Leurs bras massifs pendent inertes le long de leur corps. L'un affiche le tatouage d'un loup enroulé dans du fil de fer barbelé, l'autre a la main entourée d'un bandage sale. Ce n'est pas l'endroit idéal pour un meurtre, songe Juna, et il se tourne vers Salim Rajen. Tu parles suédois ?
Oui,
répond Salim sans lever les yeux. Les hommes dépassent la dernière table derrière Juna et continuent en direction des toilettes. Tu as sans doute compris que je pars en perme bientôt. Je demande à tous ceux du couloir si je peux faire quelque chose pour eux à l'extérieur. On ne se connaît pas, mais tu vas probablement rester ici un bon moment, alors je te pose la question à toi aussi.
Merci, mais je me débrouille,
dit Salim à voix basse. Parce que je suis kafir, que je suis mécréant?
Oui.
La cuillère en plastique argenté tremble dans la main de Salim, couverte de taches de rousseur. Des chaises raclent le sol et les deux hommes de Malmö se lèvent à l'autre bout de la pièce. Imre Odandor mesure près de 2 mètres et Darko, qui approche de la soixantaine, a le physique d'un déménageur. Le groupe de Rainer commence à se plaindre bruyamment du café qu'ils estiment être de la lavasse. Ils se tournent vers la vitre.
« C'est de l'arnaque !» crie l'un d'eux. Avant l'arrivée des Albanais, le café était correct.
De l'autre côté de la fenêtre, les deux surveillants se préparent à entrer pour calmer le jeu. Les hommes de la Brødre Skapet qui étaient passés derrière Juna font demi-tour dans le couloir et se dirigent vers Salim. Ils remontent leur capuche et tournent le dos aux caméras de surveillance. Ils ne sont pas armés. Ils cherchent seulement à faire peur. Juna reste assis. Il comprend qu'ils ne vont pas tarder à passer à l'attaque. À Halle, Salim Rajen a dirigé l'essentiel du trafic de drogue, et Rainer Kronlid se doit de l'intimider, voire de le tuer, s'il ne veut pas perdre son autorité.
Tu vas commencer à la blanchisserie, mais tu peux aussi choisir de suivre des cours, dit Juna calmement. On a un cercle d'études. Ça ne t'intéresse peut-être pas, mais cette année, il y en a 3 qui ont réussi leur brevet d'aptitude. Maintenant, ils peuvent continuer pour passer le bac.
Le premier des deux hommes pousse Salim qui bascule sur le côté avec la chaise. En se rattrapant avec la main, il renverse son bol et le lait caillé se répand par terre. Il tente de se remettre debout, mais l'autre lui donne un coup de pied dans la poitrine, qui lui fait perdre l'équilibre et buter dans les chaises voisines. Sa jambe droite se tend dans la chute et la semelle de sa chaussure trace un trait dans le lait caillé. Juna continue de boire son café sans réagir. Les mecs de Malmö interviennent. Ils font une tête de plus que les hommes de la Brødre Skapet qu'ils repoussent calmement tout en s'exprimant en albanais, un sourire aux lèvres. Les gardiens sont déjà dans la salle et séparent les groupes. Salim se relève. Il s'efforce d'avoir l'air impassible et de dissimuler sa peur, frotte son coude qui a pris un coup et se rassoit.
« Je crois que tu as un peu de lait caillé sur ta chemise, » dit Juna, et il lui tend une serviette en papier.
« Merci. »
Salim essuie les éclaboussures et replie la serviette. Juna se dit que c'était un simulacre d'attaque, une diversion. Il lorgne vers Rainer pour décrypter ses intentions et devine l'imminence d'une deuxième vague. Les surveillants parlent aux deux assaillants qui prétendent que Salim Rajen les a provoqués. Lorsque l'unité de sécurité arrive avec matraque et bombe lacrymogène, l'incident est clos depuis longtemps. Juna sait que la seule possibilité d'infiltrer l'organisation de Salim avant mercredi est d'exploiter le fait qu'il a été transféré du jour au lendemain. À Halle, il avait probablement mis sur pied un système de protection et de communication avec l'extérieur. Il avait évidemment envisagé le risque d'être découvert, mais pas celui d'être transféré. Au cas où il aurait réellement dirigé le groupe terroriste depuis la prison, il est maintenant coupé de tout. En tant que chef opérationnel, il faut qu'il trouve au plus vite un messager, qu'il rétablisse les communications. En admettant que les informations de la CEPO soient exactes, la situation de Salim Rajen est désespérée s'il veut donner le feu vert pour le meurtre prévu pour mercredi prochain. Juna regarde Salim qui entoure son mug de sa main. Il voit un rond clair qui s'est formé sur la surface presque noire du café.
« Si j'étais toi, je ne boirais pas ce café, »
Tu as raison, répond Salim.
Il adresse une rapide prière à son Dieu pour le remercier du repas avant de se lever. Jouna dit à Salim de réfléchir au cercle d'études encore une fois. Tout le monde dispose maintenant de 10 minutes pour se préparer avant de rejoindre son poste à la blanchisserie et à l'atelier mécanique ou à la bibliothèque pour ceux qui suivent des études. Quand Jouna arrive dans sa cellule, il constate qu'elle a été fouillée. Le lit est défait, ses vêtements sont éparpillés par terre, ses lettres, ses livres et ses photographies ont été piétinées. Il entre et raccroche au mur la photo de sa fille Lumi, lui tapote la joue et commence à ranger. Il ramasse ses lettres, les défroisse et s'arrête en tombant sur la première lettre qu'il a reçue de Valeria. C'était à Noël, et il venait de terminer le repas traditionnel, mais sans aquavite, avec ses co-détenus, quand le Père Noël s'était présenté à la section D.
Oh, est-ce qu'il y a des méchants voyous par ici ? Avait-il lancé.
Il avait lu la lettre dans sa cellule le soir, et elle lui était apparue comme un formidable cadeau.
Cher Jouna, tu te demandes sans doute pourquoi je t'écris après toutes ces années. La réponse est simple. J'avoue que je n'ai pas osé le faire auparavant. C'est seulement maintenant que tu es en prison que j'ose donner de mes nouvelles. Nous savons tous les deux que nous avons emprunté différents chemins dans la vie. Que tu deviennes policier n'était peut-être pas une surprise, mais que moi je prenne la direction opposée, c'était inconcevable, tu le sais. Je ne pensais pas avoir ça en moi, mais les choses arrivent. On choisit un sentier qui serpente et mène à un endroit où l'on n'a aucune espèce d'envie d'arriver.
Je ne suis plus la même aujourd'hui. Je mène une vie ordinaire, je suis divorcée, j'ai 2 fils adultes et je travaille comme horticultrice depuis de nombreuses années. Mais je n'oublierai jamais comment c'était de se trouver derrière les barreaux. Tu es peut-être marié, tu as peut-être un tas d'enfants qui te rendent visite tout le temps, mais si tu te sens seul, je viendrai te voir avec plaisir. Je sais que nous étions très jeunes quand nous sortions ensemble et que ça n'a duré que la dernière année de lycée, mais je n'ai jamais cessé de penser à toi. Très chaleureusement, Valeria.
Jouna replie la lettre, la range avec les autres, ramasse les draps et la couverture et les secoue. Il n'ose pas imaginer que la mission que lui a confiée le Premier ministre puisse aboutir à une grâce. L'enfermement et l'impuissance deviendraient trop grands s'il commençait à fantasmer sur la liberté. Il se mettrait à rêver d'aller à Paris pour rendre visite à Lumi, il voudrait voir Valeria, il voudrait aller sur la tombe de Dissa, au cimetière de Hammarby, et se rendre sur le lieu de repos de Souma, loin dans le nord. Il chasse ses envies en faisant le lit, tend le drap sous le matelas, tapote l'oreiller et le remet en place.